Hashtag, un autre regard sur le handicap.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Hashtag, l'émission qui donne la parole à des personnes en situation de handicap afin d'évoquer leur parcours de vie, leurs projets, leurs préoccupations et leur permettre de débattre sur des thématiques diverses qui les concernent. Alors le mois dernier, nous avons parlé formation et diplomation. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale car le thème portera sur la présentation d'un établissement, l'établissement d'accueil et d'urgence La Maison des Sources, l'EATU. Et pour cela, toujours à mes côtés, Anne Clément, directrice de la communication au Clos du Nid. Bonjour Anne.
Et oui, toujours là, bonjour à tous.
Nous avons également avec nous Dominique Lebon, accompagnant éducatif et social à l'EATU La Maison des Sources. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons Damien et Jean-Pierre qui sont accueillis pour des séjours à l'EATU. Bonjour Damien.
Bonjour.
Et bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et par téléphone, nous avons également Isabelle Mohomi, coordinatrice de la plateforme médico-sociale de la filière Brain Team. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer cette émission en parlant de cet établissement d'accueil temporaire et d'urgence, la Maison des Sources, qui est ouvert, si je ne me trompe pas, depuis 2010. Pour commencer, Anne, Dominique, on pourrait présenter ce qu'est un établissement d'accueil et d'urgence et quelle est sa spécificité ?
Donc la Maison des Sources est un établissement qui accueille notamment des personnes qui viennent un petit peu de divers horizons. Beaucoup de personnes qui viennent du domicile, à 60% à peu près. Après, nous travaillons avec des établissements médico-sociaux qui permettent de proposer du répit aux aidants, mais aussi à la personne elle-même, mais aussi un souffle. Quand on vit en institution, des fois, il est bien de prendre quelques vacances. Et ça permet aux personnes de venir se reposer ou voir un autre quotidien que leur habitude.
Alors, pour compléter, en fait, cet établissement, c'est un établissement qui est encore expérimental. C'est-à-dire qu'il y en a peu en France, voire pas en France. Il y a, dans certains établissements, des cellules de répit, des unités de répit, mais des établissements à part entière, on en connaît peu. Donc, il est assez original et encore à titre expérimental. Donc, il a été créé en 2010. C'est assez récent aussi dans le paysage médico-social. Et comme son nom l'indique et comme l'a bien précisé Dominique, il a la particularité de proposer des séjours temporaire et d'urgence. Alors pour le temporaire, effectivement, comme elle l'a bien fait ressortir, c'est essentiellement pour du répit. Mais une des spécificités de l'établissement, et c'est là où peut-être pourra intervenir Isabelle du réseau Brain Team, c'est, il y a deux autres particularités, c'est que c'est aussi un établissement passerelle, on pourrait l'appeler comme ça, c'est qu'il permet d'accueillir des personnes qui sont en transition entre deux établissements ou qui sont pour l'instant à domicile et qui veulent passer dans un qui vont être accueillis dans un établissement ou qui sont dans un certain établissement et qui potentiellement pourraient être accueillis dans un autre. Donc c'est un établissement, c'est une passerelle. Et également, elle a un rôle d'observation, c'est que, alors j'anticipe peut-être que vous alliez dire après, visiblement, mais c'est un rôle aussi d'observation, c'est-à-dire qu'elle, dans cet établissement, des évaluations peuvent être refaites. Des évaluations des personnes parce que les projets d'accompagnement évoluent et que cet établissement peut aider à les faire évoluer. Donc voilà, c'est un établissement très spécifique qui offre pas mal d'objectifs, qui offre pas mal de possibilités, et c'est en ça aussi qu'il est assez unique et assez encore expérimental, parce que il est ouvert sur plein de choses, il a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de possibilités dans cet établissement.
Dominique, le public accueilli, on est sur quel type de public ?
Alors, il est très divers. C'est 65% de personnes qui viennent du domicile. Donc ça peut être des accidents de la vie, des accidents de la voie publique ou des maladies dégénératives. Nous travaillons avec les secteurs médico-sociaux, à peu près 15% s'il y a la louche. Voilà. Et puis après, nous avons aussi tout ce qui est ESMS. Alors, établissement sanitaire, médico-social, voilà.
L'hôpital.
Oui, après, ça peut être...
Il y a
tellement de possibilités que c'est tout un panel de personnes qui peuvent se présenter. Il suffit qu'ils aient une notification MDPH.
D'accord.
Voilà, et puis ils peuvent venir faire 90 jours sur une année en séjour, soit en séquentiel, soit... Alors, le séquentiel, ça peut être une fois par mois ou ça peut être une quinzaine de jours chaque 2-3 mois. Et ça peut être aussi du ponctuel, pour quand c'est de l'urgence ou un changement de situation, comme vous l'aviez soulevé tout à l'heure. Voilà.
Isabelle, comment le réseau Brain Team intervient dans cette EATU ?
Alors, le réseau Brain Team, sans rentrer dans le détail, c'est un ensemble de centres de référence, de centres de compétences experts sur la prise en charge des maladies rares neuroévolutives. Et donc, pour le TAU, ce qui est important pour nos centres, et puis tous les partenaires et les patients hein, sur lesquels on est, nous permet en fait d'avoir des lieux de... C'est un lieu de répit, il est beaucoup sollicité comme lieu de répit et aussi comme lieu de relais. En attente d'une solution et puis aussi pour faire des évaluations médico-sociales. Ça permet vraiment aux patients de repérer le lieu de vie qui est possible ou pas et quel type de retour à domicile est nécessaire et puis d'avoir du coup des bilans aussi à présenter à la MDPH en fonction de ce qu'aura vu l'équipe de l'ETAU.
Vous êtes situé où, vous ?
La filière de santé maladies rares est portée par le CHU d'Angers, mais la filière intervient sur toute la France, en fait, puisqu'en fait, dans la prise en charge des maladies rares, on n'a pas un centre expert qui regroupe toutes les pathologies de notre filière. On en a plus de 500. Donc, certains centres vont se retrouver à Paris, d'autres à Montpellier, d'autres à Lyon, enfin voilà, sur toute la France. Et donc... Quand on a une maladie rare, ce n'est pas forcément le centre hospitalier de sa ville qui va être l'expert de sa maladie rare.
Et l'objectif du réseau, c'est quoi en fait ? Comment vous êtes organisé ? Quel est son rôle ? Quelles sont ses missions ?
Alors, l'objectif du réseau des établissements médico-sociaux, donc effectivement, on a signé depuis quelques années une convention avec l'association Le Clos d'Uni, et plus particulièrement hein,
Pour le ATU.
Parce qu'en fait, en plus de nos experts médicaux, qu'on va retrouver dans les centres de référence et les centres de compétences qui sont répartis du coup sur toute la France, comme nous, on est spécialisés sur les maladies rares neuro-évolutives, il y a forcément à un moment donné dans le parcours du patient un travail à faire avec le secteur médico-social pour des retours à domicile ou pour des entrées en institution. Et donc du coup, dans notre filière, donc c'est très spécifique, hein, la filière de santé maladie rare Brain Team, on a développé un réseau d'établissements médico-sociaux dont fait partie effectivement le ATU, qui vont être un petit peu pour nous les experts dans l'accompagnement médico-social. Et du coup, ces établissements ressources-là qu'on a repérés, donc il faut que ce soit des établissements qui accueillent ce type de patients-là, ça c'est le cas pour le ATU. Il y a aussi tout un aspect d'engagement réciproque et notamment d'engagement de montée en compétences des professionnels sur nos maladies, sur la connaissance de la maladie. Et puis cet établissement-là, du coup, s'engage aussi à être un petit peu la ressource locale, l'appui pour d'autres établissements médico-sociaux qui vont accueillir un patient avec une maladie rare neuroévolutive pour la première fois, donc ils ne sont pas trop expérimentés. Et s'ils ont des questions un petit peu pratiques au terrain sur le médico-social, du coup, on pourra les adresser à l'ETAU pour l'expertise qu'ils en ont, en complément finalement de l'expertise médico-sociale qui sera apportée nous, de l'expertise médicale qui sera apportée par les centres hospitaliers.
Depuis quand vous êtes en partenariat avec le Clos d'Uni ? C'est effectif depuis quand ? Si vous avez la date en tête.
Je n'ai pas la date en tête.
La convention a été signée en janvier l'année dernière, janvier 2023, si mes souvenirs sont bons à moi.
Mais les premiers contacts datent de beaucoup plus longtemps.
Mais les premiers contacts, voilà. En fait, là, ça a été formalisé l'année dernière, mais les premiers contacts datent effectivement d'il y a quelques années maintenant, oui.
C'est ça. Parce qu'en fait, quand on a repéré, nous, les établissements médico-sociaux, on ne signe pas une convention pour se faire plaisir, signer un bout de papier. Il y a vraiment... un engagement, alors nous pour la filière, parce que nous on s'engage aussi à former, à monter en compétences les équipes et puis aussi à apporter toute l'expertise médicale qu'ont nos centres de référence et nos centres de compétences. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est beaucoup d'investissement pour l'établissement. Hein, et donc voilà, il faut vraiment que l'établissement qui s'engage signe pas simplement le bout de papier, mais joue vraiment son jeu d'une manière concrète. Donc parfois on travaille ensemble d'une manière informelle. Et puis si on voit que ça prend, que ça marche, l'investissement, tout le monde est gagnant, c'est là où on va signer finalement la convention qui va formaliser des choses qui existent finalement depuis longtemps. Et c'est vrai que le APU travaille beaucoup, je pense, depuis un certain temps, avant même la signature avec Brain Team, avec le centre expert Huntington à Montpellier.
Oui, tout à fait.
Oui, nous avons une spécialisation. Nous avons la chance aussi de pouvoir partir en formation régulièrement pour tous les professionnels et sur des pathologies comme la chorée d'Huntington, où nous avons une certaine expérience maintenant pour accueillir ces personnes atteintes de cette maladie.
Justement, quel type de professionnels travaillent au sein de cette ETU ou du moins interviennent ?
Alors, sur les équipes de la quotidienneté, il y a des aides-soignants, des AMP et AES, des moniteurs éducateurs. Et nous avons une éducatrice spécialisée qui est en charge de tout ce qui est coordination, un petit peu avec nos partenaires, avec les familles, avec les tuteurs, voilà, qui s'occupe un peu du côté administratif. Puis après, il y a tout le staff infirmier, direction, ergothérapeute et kiné qui interviennent. On a pas mal de professionnels sur le terrain. Et nous avons des maîtresses de maison qui sont là sur la quotidienneté aussi.
D'accord. J'imagine que ça dépend le pourquoi et quel type de public vous accueillez, mais c'est quoi les objectifs du séjour, finalement, d'un séjour ?
Ça dépend. Ça dépend de la pathologie, ça dépend le parcours de la personne, ça dépend des projets aussi. Après, peut-être qu'on va pouvoir aussi le demander à Damien et Jean-Pierre, parce que c'est vrai qu'il y a, je ne peux pas vous répondre directement sur un objectif précis, parce qu'on a tellement de choses. Ça peut être une évaluation pour une future entrée dans un foyer, mettons. Et alors là, on va évaluer un petit peu les capacités de la personne sur la quotidienneté, sur l'accompagnement à la toilette, pour voir s'ils sont autonomes, s'ils le sont moins, s'ils ont besoin d'appareillage, s'ils ont besoin d'un accompagnement un peu plus de proximité, on va dire.
Donc ça, c'est pour des évaluations, mais il y a aussi d'autres choses. On a parlé du répit.
Du répit. Alors le répit peut être déjà pour les aidants, puisqu'on parle beaucoup de l'aider. Mais c'est vrai que les aidants en France ont besoin d'être aussi entendu, et cela permet aux personnes de prendre du répit pour eux. Et puis la personne qui vient, alors c'est vrai qu'il y en a certains qui ne comprennent pas pourquoi ils viennent en séjour, alors on leur explique que c'est pour permettre à leur famille, à leurs aidants ou professionnels ou familiaux de se reposer aussi. Et puis après, petit à petit, on les accompagne dans certaines activités, et puis aussi sur la quotidienneté, dans toilettes, les activités proprement dites, les repas, et on fait des évaluations sur chaque personne qui vient.
Oui, les aidants, ça pourrait être aussi un sujet à part entière.
Alors, d'autant que vendredi dernier, c'était la journée nationale des aidants, et pour lequel il y a eu une
journée
animation.
À Marvejol.
Il y a eu une journée à Marvejol, et chaque année, il y a une journée à Marvejol. Voilà.
Damien, vous allez, alors on a vu, tous les parcours sont différents. Vous réalisez régulièrement des séjours de répit à l'EATU.
Absolument.
Alors c'est quoi ? C'est pour rompre avec l'institutionnel, pour décompresser ? Dans quel objectif vous allez à l'EATU, la Maison des Sources ?
Alors, c'est pour sortir de l'hôpital François Toscaïès ou à Saint-Alban-sur-Limagne où je suis hospitalisé depuis 2019. Je vais là-bas pour respirer un grand coup parce que les Saint-Alban, c'est pas toujours facile.
D'accord. Comment ça se passe concrètement quand vous arrivez à l'ETU ? Qu'est-ce que vous faites ? Il y a des activités, vous avez votre chambre, il y a des espaces de vie communs, vous rencontrez des gens. Expliquez-nous un peu concrètement la vie quotidienne au sein de l'ETU, c'est quoi ?
Alors, moi en général, au début de la journée, je prends mon petit déjeuner à 8h. Quand l'éducatrice arrive. Ensuite, je vais faire ma toilette. Les dents, bon, je vais pas en faire tout un roman non plus. Mais...
Oui, mais
ensuite, je sais qu'à 10h, ils nous offrent du café.
C'est somme toute assez banal, c'est une vie...
Après, ils nous proposent des activités, comme venir témoigner sur 48FM.
Ça, c'est une belle activité.
Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel.
Franchement, là, je suis. C'est vraiment bien. Hier, je suis allé avec d'autres soignants de l'ATU au lac du Moulinet, à 10 km de Marvejols.
Pour une balade, pourquoi ?
Pour faire une balade, prendre l'air et boire un coup à l'auberge. Et après, ils nous ont proposé des activités de cuisine. Je me souviens d'avoir organisé un repas avec notamment des... En fait, non, c'était que des kebabs. Donc, on a, avec l'aide-soignant et moniteur éducateur...
C'est bien ça. Ça, c'est un atelier cuisine.
Prendre l'air, se balader, faire à manger. On retrouve quoi, Dominique, comme atelier au sein de...
Alors, il y a des activités d'art plastique. Il y a des activités de sport. Alors, nous avons quelques vélos. Nous avons une salle de sport avec un petit équipement. On peut les amener aussi sur des sites où il y a un peu plus de matériel sportif.
Il y a aussi une console de jeu.
Voilà, il y a des consoles de jeu. Il y a beaucoup d'activités dehors, visites à l'extérieur. Nous allons visiter les parcs du coin, mais aussi de la région. En début d'année, il se fera pour la première fois, parce que ça s'est jamais fait, je crois, un petit camp sur 4 jours sur le thème de la montagne. Donc, quelques privilégiés vont pouvoir partir 3-4 jours en Auvergne un petit peu. Ils vont manger terroir et faire des promenades à thème sur le thème de la montagne. Voilà, ça permettra à certains de partir un petit peu en vacances, en plus de l'EATU. Et voilà, après des activités, c'est aussi suivant les groupes que nous avons à la semaine. On leur demande aussi ce qu'ils ont envie. Elles ne sont pas figées, les activités, puisque comme les personnes ne sont pas sur la quotidienneté à long terme, nous sommes beaucoup dans la spontanéité. Et avec les demandes de chacun, il y a des ateliers d'esthétique, des ateliers de coiffure, et voilà.
J'en aurais bien besoin, moi, parce que j'ai les cheveux un peu longs.
Ah bon, donc c'est à voir. Par contre, moi, je reviens sur ce que tu m'avais dit une fois, Damien, toi. Toi, tu m'avais dit que l'EATU, c'était aussi un moyen de trouver de la tranquillité, de t'apaiser.
Ah oui, ça me fait du bien, un bien fou, je dirais, moi.
Alors, pourquoi t'apaiser, pourquoi ?
Bah, parce que à Saint-Alban, c'est un peu anxiogène, on va dire.
Donc en fait ça te coupe un peu du collectif, c'est ça ? Ça permet de t'isoler un petit peu ?
Oui, et d'ailleurs, comment je peux vous dire ça ? Et ça me permet, parce que à l'EATU c'est 3 groupes de 8 places chacun, l'EATU peut accueillir 24
personnes.
Et
vous êtes répartis en 3 groupes de 8, donc vous n'êtes pas plus de 8 dans une unité de vie. C'est ce qui te plaît, c'est ce qui te permet d'être plus isolé, d'être plus tranquille.
Et j'ai un projet aussi que je tenais à détailler. J'en ai discuté avec mon psychiatre de Saint-Alban. Avant, on avait envisagé une orientation femme.
Donc, mais... d'aller en foyer d'accueil médicalisé.
Mais
tu précises.
Mais le.
J'ai pas compris.
Mais finalement, j'ai appris que les femmes, ils accueillaient des gros publics. Donc, le psychiatre m'a suggéré d'aller en appartement thérapeutique qui dépend du Clos-du-Nid à Marvejols.
D'accord, donc ce serait plutôt un foyer d'hébergement. Alors, c'est Dominique, c'est aussi ça, l'EATU, les évaluations de ce type ?
Oui, ça peut en faire partie. Après, ce n'est pas nous qu'on prend ces décisions-là. Hein. Mais, voilà.
Vous appuyez, vous amenez les billes pour dire...
À chaque fin de séjour, on rédige un petit compte rendu de séjour de la personne. Il peut y avoir aussi des bilans un peu plus spécifiques en vue, comme Damien, avec des projets, voire une orientation en appartement thérapeutique. Oui, ça fait partie du travail qu'on peut faire à la Maison des Sources. Et après, je rebondis ce qu'il a dit sur Damien. Nous accueillons effectivement 24 personnes, mais nous gardons toujours 2 lits pour les urgences. Voilà, 24 places.
Qui peuvent être quoi comme urgence ?
Alors, ça peut être... Elles sont diverses aussi, c'est pareil.
Mais c'est toujours des urgences situationnelles, attention. Hein.
Voilà, c'est un parent qui est vieillissant, qui est hospitalisé ou qui rentre en EHPAD. Donc la personne se retrouve seule, donc ça peut être de l'urgence. Elle peut prendre ses 90 jours d'un coup en attente d'une future, d'un futur projet en fait, d'accueil. Voilà.
Alors tu disais aussi, Damien, c'est le moyen d'être avec moins de monde, de se ressourcer. Pourtant, il y a, alors on en parlait avec, on va lui donner la parole, hein, avec Jean-Pierre. C'est le moyen aussi de rencontrer d'autres personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées. Sinon, Jean-Pierre, en off, on en discutait. Tu disais, ben, c'était une belle rencontre avec Damien. C'est une personne que j'aurais
très
jamais rencontrée.
Bonne rencontre.
Si j'avais pas été à l'EATU, c'est ça?
Effectivement. Je pense que, comment dire, on n'a pas l'approche facile. Il faut déjà dissocier le fait que soit on est handicapé dès la naissance, soit c'est un handicap qui arrive au cours de vie. Et sans minimiser l'handicap dès la naissance, c'est très dur de devenir handicapé. Quoi. Donc le fait d'être mélangé avec des personnes qui rencontrent aussi des difficultés permet de relativiser, permet de, peut-être de mieux comprendre et de faire l'effort de s'insérer. Quoi. Donc, on a très vite, le danger, c'est très vite s'isoler. C'est pour ça que tout à l'heure en aparté, je disais que le repas se prenait en collectif, pas en individuel. Parce que sinon, comme on a la liberté de pouvoir choisir ses activités, on n'est pas 24 heures sur 24 avec les gens du groupe.
Je vais préciser quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, qui me semble important aussi. Vous avez dit que pour une personne comme vous, qui avait eu une maladie, c'est peut-être aussi une proposition de fait entre eux, l'acceptation de l'handicap qui arrive. C'est les mots de Jean-Pierre tout à l'heure. Il a dit le fait de rencontrer d'autres personnes qui ont un handicap un peu plus lourd m'ont permis d'accepter à certains moments mon handicap à moi. Et je trouvais que c'était important.
C'est ça.
Oui, parce que vous venez du domicile, c'est ça. Du coup, on a le cas de Damien qui, lui, vient de l'hôpital psychiatrique et qui fait des séjours de répit, donc pour un petit peu plus de tranquillité, retrouver, s'apaiser, voilà. Du coup, vous, Jean-Pierre, vous êtes à domicile, donc vous avez eu une maladie et vous êtes à domicile.
Oui, je vais faire un peu d'humour. C'est pour les congés du congé salarial de ma femme. Congé payé, ma femme. Voilà, je viens aller le ATI, comme ça, elle a droit à ses 3 semaines de congé payé. Et là, non, mais c'est très important parce que on a parlé donc des aidants. C'est vrai que ça mériterait de faire une autre émission là-dessus. Mais on y laisse des plumes. Si on n'est pas vigilant, le couple n'est pas solide, si les proches du couple ne sont pas là, je ne vous cache pas qu'il y a plus d'une fois on a failli se séparer ma femme et moi parce que voilà, c'est trop pesant quoi. En tant que malade, on a pas le sentiment de ne pas être compris, et en tant qu'aidant, c'est très dur de faire comprendre que ça ne marche pas comme ça, parce que voilà quoi, ils nous voient de l'extérieur, ils nous de l'intérieur. J'ai l'impression moi d'avoir une grande vitre épaisse, même au pare-balles, et d'être dans cette dualité. Et le fait de prendre... moi, ça fait ma deuxième session. Donc, déjà, je me sens plus à l'aise au milieu de l'équipe. Quoi. Je me permets d'intervenir ou des trucs comme ça, des coups de main à faire. Parce que c'est une vie de famille, quoi. C'est une grande famille. Les groupes de 8, c'est super. On n'est pas nombreux. Et ça permet de pouvoir échanger. Et enfin, pour moi, c'est que du bonheur.
C'est très convivial, je dirais plutôt.
On essaye de respecter le rythme un petit peu de chaque personne. Alors, comme dans toute institution, on ne peut pas non plus déraper sur des longueurs de journée, mais c'est vrai que le matin, on ne réveille pas tout le monde à 7h du matin. On laisse quand même un petit peu de temps à tout le monde, le temps de se réveiller. On prépare les petits déjeuners. Et puis les gens se lèvent petit à petit et on les fait déjeuner. On essaye d'être à l'écoute de chacun.
Alors, vous adaptez au rythme de chacun, en fait.
Voilà.
Le maximum, voilà.
Voilà.
Alors, par contre, avoir Jean-Pierre et Damien, il y a une hétérogénéité du public accueilli, j'imagine aussi au niveau des pathologies que de la situation des personnes. C'est pas compliqué, ça, de voir cette notion d'adaptabilité par rapport au public qu'on accueille?
Alors, effectivement, ça demande des fois de jongler... dans les prises en charge, elles ne sont pas du tout les mêmes. Mais je ne trouve pas ça une difficulté. Alors, c'est vrai que pour répondre à la question, on s'adapte. Parce que je pense que, voilà, quand on travaille dans un établissement d'accueil temporaire, de toute façon, d'une semaine à l'autre, on n'a pas les mêmes personnes, pas les mêmes handicaps, et pas les mêmes caractères. Parce qu'il y a la maladie, il y a le handicap, mais il y a le caractère et la personne. Et donc, ben, on a cette... oui, cette gymnastique qui fait qu'on s'adapte à chaque situation et que voilà, d'une semaine à l'autre, de toute façon, c'est pas la même. Donc, voilà, on essaye de respecter chacun avec ce qu'il représente déjà en tant que personne. Et puis après, avec les pathologies et puis tous les outils qu'on peut mettre à disposition de l'accompagnement.
Et du coup, moi, je voudrais refaire intervenir Isabelle, hein, qui est au téléphone avec nous. De ce que j'entends de Dominique, c'est que maintenant, le ATU a quand même une véritable expertise. Et du coup, c'est ce que vous recherchiez, vous, au niveau du réseau, de cette expertise, cette expérience qui peut vous remonter du terrain par rapport à l'accompagnement des maladies rares que vous pouvez rencontrer.
Effectivement. Pour nos patients, pour les patients en tout cas de la filière, le ATU, c'est l'avantage de l'expérience qu'ils ont aujourd'hui sur les maladies rares neuroévolutives, leur permet finalement d'accueillir tout type de maladies rares. Hein. Nous, au niveau de la filière, il y a 500 maladies différentes. Et c'est vraiment pas un problème pour les professionnels qui savent s'adapter. Et c'est vrai que le retour qu'on a eu de nos patients, c'est vraiment une structure qui a de l'expérience, des savoir-faire et qui rassure et qui les rassure en fait en allant chez eux parce qu'ils n'ont pas l'impression de devoir rappeler aux équipes un petit peu la prise en charge qui peut parfois être spécifique à nos maladies. C'est connu des professionnels et ils vont s'adapter. Et ce terme d'adaptation, il convient tout à fait à l'ATU. Enfin, vraiment, pour nous, c'est une chance d'avoir ce type de structure-là, quelle que soit la maladie, quel que soit le moment de l'évolution de la maladie dans laquelle sont les patients. Je dirais, ils sont forcément, en fonction évidemment des places disponibles, mais en tout cas, ils sont forcément, ils sont toujours pris en fait par la structure et il n'y a pas... Il n'y a pas de questionnement sur la maladie, est-ce qu'elle est évolutive ou pas. Le TAU prend de toute façon en accueil temporaire nos patients. Donc c'est vraiment ça qui est très bénéfique pour nous.
Et du coup, comme centre de référence, vous, ce qui vous intéresse aussi, est-ce que c'est l'expertise que cela vous amène? Est-ce que par exemple aussi ça vous permet de rédiger des guides de bonnes pratiques pour une maladie ou autre? Et est-ce que ça vous aide au quotidien après pour aider les autres centres de référence ou centres d'accueil?
Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'un seul établissement, c'est la mutualisation d'un ensemble d'établissements, donc les fameux établissements ressources. Donc il y a à peu près, dans la filière, il y a entre 25 et 30 établissements ressources qui ont signé une convention avec la filière. Et c'est le cumul et la mutualisation finalement de toutes ces expériences et ces savoir-faire, dont évidemment le ATU, qui vont nous permettre... d'écrire, de faire des tutoriels, de faire des contenus de formation, de créer des outils, des recommandations pour la prise en charge de nos patients. C'est vraiment avec le regard médico-social, et ce regard-là, il va compléter le regard du sanitaire. Et c'est vraiment toute cette richesse-là, c'est-à-dire que le sanitaire va apporter, lui, son expertise médicale, et médico-social, son expertise de l'accompagnement médico-social sur des recommandations, sur des trucs, des astuces de prise en charge, du matériel adapté, sur des comportements à avoir justement par rapport à certaines pathologies. Et vraiment, c'est hyper bénéfique, cette complémentarité de l'ensemble de tous ces acteurs. C'est vraiment un ensemble d'acteurs qui vont contribuer en fait à réaliser des outils communs.
Et comment se porte le choix sur l'EATU, la Maison des Sources, plutôt que par exemple sur un autre établissement?
C'est avant tout le choix du patient, on appelle ça patient, donc système hospitalier, mais c'est le choix vraiment de la personne et de son aidant, c'est pas nous qui allons dire il faut aller là. On va conseiller parce qu'on est généralement dans des situations soit d'urgence, effectivement l'établissement là est tout à fait adapté, ou soit parce qu'on sait que c'est un établissement comme il a l'habitude et qu'il a un savoir-faire sur l'accueil de nos patients, ça ne posera pas de soucis. Mais ce n'est pas nous qui allons choisir. Nous, on va conseiller cet établissement-là et c'est la personne qui va choisir. En même temps, dans l'accueil des patients avec une maladie neuroévolutive, il y a quand même une minorité d'établissements médico-sociaux qui acceptent justement nos patients parce que ce sont des pathologies qui ne sont pas connues, elles sont rares. Donc ça fait un petit peu peur de prendre quelqu'un avec une rareté parce qu'on ne sait pas forcément le prendre en charge. On a aussi des situations un petit peu complexes parce qu'effectivement on a des maladies qui évoluent, donc avec certains troubles. Et ces troubles-là font parfois peur aux équipes. Donc on a plutôt des équipes, des établissements aujourd'hui qui nous ferment encore des portes par méconnaissance sans doute de la prise en charge de nos pathologies, alors que on sait que forcément on n'aura pas besoin de convaincre, ils sont partenaires et ils ne vont pas se poser de questions, ils vont accueillir le patient. Donc alors pourquoi eux plutôt qu'un autre? C'est parce que voilà, c'est un accueil qui a vraiment des compétences très spécifiques dans nos pathologies.
Hashtag Ludovic Terrol, Anne Clémence.
Les gens viennent de quel département, en gros? Parce qu'on voit, Isabelle nous a dit que ça pouvait venir d'un peu partout.
Voilà, actuellement on travaille avec à peu près 35 départements, plutôt Occitanie. Ça nous est arrivé il y a quelques années de travailler avec des gens qui venaient de la région parisienne. Voilà, il n'y a pas de limite de territoire en tout cas.
Dans les statistiques, c'est la moitié des séjours sont avec des personnes qui viennent d'Occitanie.
D'Occitanie, voilà. en plus grande partie. Mmh. Après, voilà, du département.
Et
on en a
le reste, ben, hors département.
Hors département, tout à fait.
La modalité des séjours, c'est combien de temps?
Alors, ça dépend.
Ça dépend aussi?
Voilà.
On peut aller jusqu'à combien de temps? Je peux venir 6 mois?
90 jours.
90 jours.
Comme je disais, il faut, voilà, c'est une notification qui apparaît avec la MDPH. Et vous avez une prise en charge de 90 jours. Et voilà, après, les personnes choisissent leur intérêt, en fait. Si c'est du séquentiel, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une semaine par mois, peut-être. Après, il y en a qui viendront sur 15 jours. En moyenne, c'est 10 jours, les séjours. Voilà.
D'accord.
Après, on fait toujours un premier séjour de 5 jours pour évaluer la personne, pour voir si on a la capacité de l'accueillir aussi. Puisqu'on peut se retrouver dans des situations où on n'a pas les moyens d'accueillir la personne, des moyens humains comme matériels, hein. Voilà, ça peut arriver, notamment des jeunes personnes, on va dire, qui sont un peu du type, on va dire, un autisme bien avancé. Nous n'avons pas forcément, c'est un établissement ouvert, donc il n'y a peut-être pas toujours la solution à tous les problèmes, mais en tout cas, on a quand même un panel de choses à proposer aux personnes qui font des demandes de séjour. Et les demandes de séjour sont étudiées en commission. Voilà. Il faut que la personne télécharge son dossier d'admission sur Internet, sur le site. Et quand on a reçu le dossier, la candidature est étudiée chaque 15 jours. Et puis voilà.
Ah, c'est assez fréquent quand même.
Il y a une commission tous les 15
jours. Tous les 15
jours.
Comme
c'est voilà, un accueil, comme son nom l'indique, temporaire, du coup, tous les 15 jours, il y a des nouvelles. Enfin, il y a tout le temps de nouvelles candidatures.
D'accord.
Après, il y a des personnes qui ont des demandes précises. Mettons des familles qui ont besoin d'avoir une période. Voilà, alors il le demande un petit peu en amont et puis on peut prévoir sur la planification des séjours avec des dates bien précises.
On est à quel taux de remplissage là, par exemple, actuellement? Si on a une idée. Ou en moyenne sur l'année, Anne, on le sait ou pas?
On a un taux de remplissage. On est globalement, alors j'ai pas le pourcentage, mais globalement c'est un établissement qui fonctionne très très bien. Comme on le disait tout à l'heure, c'est assez unique et il est assez rare, donc le taux de remplissage est très élevé.
Juste, si tu peux me permettre.
Oui, oui, bien sûr. Vas-y.
Une pierre à l'édifice, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Sur le centre de Marvejols, c'est pas trois équipes de 8, c'est une équipe pour trois niveaux. Et ça, c'est important parce que vous pouvez croiser n'importe qui dans le couloir ou ailleurs. Vous n'êtes pas un numéro. Et de ce que j'ai vécu aussi, on vous associe à votre problème de santé. Il n'y a pas une petite réunion de service, oui, il a fait ça aujourd'hui, il est tombé, on est vraiment acteur, quoi.
D'accord. Donc vous, par exemple, donc vous avez fait un premier séjour, c'est ce que vous disiez. Vous avez réalisé un premier séjour et là, c'est votre deuxième séjour.
C'est mon deuxième séjour, ouais.
Donc vous avez réalisé un premier séjour d'une dizaine de jours ?
Non, pareil, 3 semaines.
3 semaines. Donc la première fois, vous êtes venu 3 semaines et là, vous êtes à nouveau accueilli pour 3 semaines.
C'est ça.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez retiré de ce premier séjour et qu'est-ce que vous attendez de celui-ci ?
Le premier séjour, il n'était même pas fini, que je voulais déjà reposer des dates. Alors, pour vous dire. C'est vrai qu'il y a une spécificité, c'est que bon, j'ai travaillé sur la Lozère, donc je n'avais pas cette appréhension de savoir qui, quoi, comment. Après, moi, ce que je vous le disais, c'est aussi me retrouver un peu moi-même par rapport à mon handicap, avec ce que je suis prêt à accepter et pas prêt encore d'accepter. De voir des changements et ainsi de suite, et laisser à mon conjoint la possibilité de souffler et de vivre sa vie aussi. Parce qu'on a le sentiment de lui imposer non seulement la maladie vous esquinte, mais en plus, on est obligé de l'imposer à nos proches, et ça, c'est moche, quoi. Mais on ne peut pas faire autrement. Donc, venir dans des centres comme celui-ci, pour moi, c'est que du bonheur, parce que ma grosse difficulté, c'est la marche. Donc j'ai le reste, comme dirait l'autre, le niveau haut fonctionne, le niveau bas ne fonctionne pas bien. Donc, mais j'ai la chance d'avoir des amis qui viennent me voir, qui viennent me sortir. Pour moi, c'est vraiment que du bonheur. Je renouvellerai mes 3 semaines.
Dès que possible.
Avec grand plaisir. Oui, je rebondis un petit peu sur ce que Jean-Pierre vient de dire. Je pense que quand il parle d'une équipe, donc nous sommes répartis, oui, 18 professionnels sur l'éducatif, sur 3 équipes. Mais c'est vrai que s'il change d'étage, s'il va sur le groupe d'en haut, eh ben, on va lui parler et l'accueillir. On essaye d'avoir des informations sur toutes les personnes qui sont accueillies à la semaine. Le vendredi, on a une réunion où on nous présente les dossiers. Et donc, on a un petit peu des informations sur toutes les personnes qui sont accueillies en même temps. C'est ce que vous vouliez dire ? Voilà. Et que c'est vrai que s'il va arriver sur une équipe où il n'est pas accueilli, ben il sera, on va répondre à sa demande, à ses questions.
Parce qu'on le connaîtra quand même, on le connaît.
Voilà, on ne va pas l'envoyer balader en lui disant « non, non, va à côté ».
Damien, vous, c'est donc cet espace de répit que vous attendez en venant à l'EATU Les Sourcins, c'est ça ?
Absolument.
Et puis autre chose aussi, Damien, moi j'avais noté que ça te permettait de te focaliser sur tes projets artistiques.
Oui, je suis passionné par le théâtre, notamment.
Et du coup, tu en fais à l'EATU ? Il y a quelqu'un qui fait du théâtre à l'EATU ?
On a fait Utopie 24.
Mais ça, c'était un projet.
Ça, c'était un projet ponctuel. Ça a été la mise en place d'un spectacle ponctuellement l'année dernière avec une compagnie qui était à résidence.
Oui, mais j'ai travaillé avec d'autres comédiens originaires de Montpellier. Et... je tenais à dire que c'était génial.
À l'EATU, on fait du mime, de l'expression corporelle.
Et des jeux de société.
Oui, ça, c'est pas du théâtre, mais quoique, hein, y a des mauvais joueurs qui peuvent faire du théâtre, des fois.
Possible.
Il va falloir lui faire rencontrer le club théâtre avec la
Exactement.
Compagnie du Lézard.
Exactement.
À Damien.
Ah bah, d'ailleurs, s'il intègre un foyer d'hébergement, pourquoi pas, hein.
Bah, il y a un club de théâtre à Marvejols.
C'est ça. C'est
la mauvaise tête.
C'est ça. Et au foyer de la Colagne, il y a le club de théâtre du foyer qui est animé par David Garcia de la compagnie du Lézard.
Oui.
Voilà.
D'ailleurs, j'écris moi-même mes propres pièces.
Ah ben voilà. Ben écoute, ils pourront te solliciter.
Affaire à suivre alors.
C'est ça.
Je reviens, Dominique, sur les places d'urgence. 2 places d'urgence, finalement, ça paraît très peu.
Non, parce que elles sont pas vraiment. On a quand même la plupart des séjours qui sont prévus et l'urgence, on y en a, hein, mais elle n'est pas.
Voilà,
elle est pas aussi.
C'est vraiment c'est vraiment de l'urgence situationnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment, je suis à domicile, l'aidant vient à décéder, l'aidant vient être hospitalisé. Donc c'est vraiment des situations d'urgence exceptionnelles. Donc c'est en ça que 2 places arrivent à ce jour à répondre aux besoins qu'il y a dans ce domaine. Voilà.
Oui, parce que la plupart des tuteurs, des organisations, des familles prévoient quand même pour le futur. Donc c'est vrai que voilà, l'urgence, c'est vraiment de l'urgence ponctuelle.
Voilà, donc les deux places alors sont largement utilisées et occupées, mais à ce jour, voilà, elles répondent aux situations, au nombre de situations qui se présentent.
C'est une journée nationale de grève, je crois, aujourd'hui. Et beaucoup de politiques disent qu'il faut réduire un peu les démarches administratives. Et c'est vrai que si... dans les réformes à venir au niveau de la santé, ils pouvaient réduire cela, ça serait bien. Parce que quand on le fait en famille, on ne dépend pas d'une structure, c'est le parcours du combattant, quoi. La MDPH, la MDPH, la mutuelle, le machin, le truc, c'est énormément d'énergie dépensée, alors qu'on aurait pu l'utiliser à d'autres fins.
Alors c'est vrai qu'on attend impatiemment ce choc administratif que nous promettent tous les ministres et tous les élus qui passent, parce qu'effectivement, cet aspect administratif est assez prégnant. Et c'est en ça qu'au sein du Clos d'Uni, on est en négociation, en démarche avec les tutelles pour essayer de diminuer le nombre d'agréments aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, administrativement, on a un agrément par établissement. Alors, on est un petit peu hors sujet, là, parce que ça ne concerne pas forcément le ATU, mais on a un agrément par établissement, et l'idée serait d'avoir vraiment un agrément global, ne serait-ce que pour pouvoir mieux circuler au sein de nos propres établissements. Parce que, même entre nous, quand on veut passer d'un établissement à un autre, on est obligé de repasser par ces modalités administratives qui sont parfois lourdes. Donc, effectivement, j'espère qu'on vous entendra et on nous entendra. Voilà.
Merci. Voilà. Mais on nous le promet depuis tellement longtemps, ce choc administratif, que... On l'attend toujours. Tu parlais de passerelle entre établissements, c'est intéressant, je vais revenir, parce que le ATU, c'est ça, c'est une véritable passerelle entre établissements. Si je prends l'exemple de Damien, donc, toi, ça pourrait servir à quitter l'hôpital et ensuite à te diriger vers un établissement médico-social, peut-être un foyer, ça peut servir à ça aussi, le ATU ?
Oui, tout à fait.
On n'a pas parlé de foyer, on a parlé d'appartement.
D'appartement.
Voilà, oui, Damien, son projet, ça serait d'intégrer un appartement thérapeutique. Voilà, mais ça c'est un projet qui mène en amont avec l'hôpital dans lequel il réside actuellement.
À Saint-Alban, sur les Magnoles.
Voilà. Et oui, effectivement, ça peut servir de passerelle, notamment dans l'association, mais aussi avec des personnes qui sont hors département et qui pourraient faire éventuellement une demande dans un établissement qui appartienne ou non au Clos d'Uni. Et voilà, ça... avec les bidons, avec les observations qu'on a pu faire et l'orientation de la personne.
Et c'est en ça que les évaluations que vous pouvez faire aussi amènent une pierre à l'édifice dans la construction de ce projet-là.
Et bien, ça appuie sur les observations qu'on fait, sur la quotidienneté, mais aussi sur les activités, sur l'autonomie. Voilà, on a une grille d'évaluation qui s'appelle CRAFIN. Et donc, c'est vrai que pas mal de personnes nous le demandent pour justement, après, revoir l'orientation de la personne ou la consolider, tout simplement. Après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de listes d'attente aussi dans les établissements médico-sociaux. Ça, c'est une réalité.
Bien sûr.
Du coup, Jean-Pierre, vous, pour revenir sur votre parcours, est-ce que juste vous accepteriez de nous le résumer ? Ça fait longtemps que vous êtes dans en situation de handicap.
Comment ? Depuis 2011.
Depuis 2011.
Et vraiment touché par la maladie, donc avoir des handicaps, c'est en 2015. J'ai subi une opération de l'arthrodèse, plus un redressement du côté tour de Pise, on appelle ça, qui n'a pas marché. Donc j'ai fait deux tentatives d'opération, deux tentatives d'échec, ce qui fait que du coup j'ai les muscles liés à la maladie qui s'atrophient, et j'ai beaucoup de difficultés, comme vous pouvez le constater, à être droit. Quoi.
Donc, on peut citer la maladie de Long.
Oui, c'est la maladie de Parkinson, pardon. Donc voilà, après, ben, ma foi, elle évolue, et on commence à avoir des bleus de partout parce qu'on tombe, parce que...
Et du coup, donc, vous avez cette maladie qui a été diagnostiquée en 2015, des interventions...
En 2011, elle a été.
En 2011, pardon, des interventions qui ont suivi.
En 2015.
En 2015. Et finalement, vous n'avez connu l'établissement que récemment, 2022, 2023, quelque chose comme
ça. C'est ça, oui. Voilà. En intermédiaire d'une amie qui est sur la Canourgue et qui travaille bien avec les organismes locaux. C'est elle qui m'a fait part qu'il y avait cette structure existante à l'ancien hôpital de clinique de Marvejols, qu'on appelle maintenant la Maison des Sources, c'est ça.
C'est ça, d'accord.
Donc, c'est pas anodin parce qu'on vient se ressourcer, donc... Elle porte bien son nom,
c'est ça. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a un gros travail de communication à faire, hein, parce que monsieur réside à la Canourgue, il a connu l'établissement 5-6 ans après que sa maladie ait été diagnostiquée. On a un gros travail de communication à faire, d'où l'utilité de cette émission, entre autres. D'accord.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre...
Si. Et du coup, et aujourd'hui, votre projet serait lequel ? Donc, de vous rendre dans cet établissement, donc, pour le répit de votre épouse, si j'ai bien compris. Pour vous aussi, ça vous amène un certain nombre de choses en termes de rencontres.
Mmh. Je vous dis, ça me permet de faire le deuil de pas mal de choses et de ne pas sombrer dans la solitude, quoi. C'est surtout ça qui est important. Alors après, comme tout le monde, on a nos périodes de calgon, et puis ça passe, on rebondit.
Et du coup, quand vous sortez, vous êtes justement un petit peu mieux quand
vous sortez
de ces séjours ?
Oui, parce qu'effectivement, on change un certain rythme de vie qui n'est pas forcément bien, mais le fait de changer, c'est comme quand un mauvais élève achète un cahier neuf. Le cahier, il est neuf, donc je vais pouvoir écrire un peu mieux, ainsi de suite, en fait, quand... Les deux pages qui suivent, après, c'est redevenu un brouillon, mais bon, c'est pas grave. Ben là, c'est pareil, c'est ce côté-là qui dit j'en profite, je suis marocain, je peux aller à tel endroit, je peux revenir, je peux manger des bonbons si j'ai envie de manger des bonbons, enfin voilà quoi. C'est...
Bon, vous rechargez les accus, quoi.
Voilà, c'est ça. Et surcharge pondérale aussi, parce qu'on est très gourmand.
Tout à l'heure, il me disait, quand on vient à la Maison des Sources, on est considéré. Alors, ça m'a plu, cette phrase, c'est pour ça que je rebondis dessus. Parce que ce mot est fort, considéré. Et quand Jean-Pierre me l'a dit, j'ai dit, voilà, ça m'a touché. Donc, je trouvais que c'était important. Et donc, oui, je pense qu'on considère les personnes qui viennent. On oublie le handicap et on les prend pour ce qu'ils sont. Et pour l'être qu'ils sont, et pas forcément pour la pathologie ou la personne. Voilà. On prend du temps avec chacun et on essaye de les écouter au mieux.
Et voilà, parce qu'au-delà de tout ce qui est de l'aspect médico-social, il y a cet aspect humain qui est extrêmement important, et bien sûr. Évidemment. Très bien. Damien, tu veux rajouter quelque chose sur cette ATU Maison des Sources ?
Ouais, ça me fait... Comme je vous l'ai dit, un bien fou. Parce que, je ne vais pas me répéter, ça me permet de me poser, d'écrire sur mon ordinateur portable, de sortir un peu pour aller un peu dans le centre-ville de Marvejols. Je l'ai déjà fait une fois. Et je suis même allé voir de la famille. S'ils m'entendent sur 48 FM, depuis Marvejols, ma grand-tante qui habite...
On va peut-être pas donner les adresses.
Ouais,
hein.
C'est ça.
Oui.
Hein, mais si j'espère qu'elle nous écoute à Marvejols, on diffuse hein, sur le 98.3. Donc on va lui donner la date de diffusion et on la salue, hein, la grande-tante. Et bientôt un appartement, tu nous inviteras pour la crémaillère ?
C'est quoi une crémaillère ?
Alors, crémaillère, c'est quand tu rentres dans un appartement, il faut fêter l'entrée. Donc, tu fais une petite fête avec du soda et des petits fours et des amis.
Et puis, en plus, tous tes invités t'amènent des cadeaux.
Eh bien, ça peut se faire. J'en fais le serment.
Bon, super, ça marche.
Super, eh bien, merci. C'est noté, Damien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Avec plaisir.
Dominique. Donc, c'est bien d'avoir parlé. C'est vrai que je ne connaissais pas cette ATU Maison des Sources. Donc, tu as raison, Anne, c'est important d'en parler. On se rapproche du Clos du Nid pour les personnes qui nous entendraient, qui se diraient « mais je suis aidant, j'ai tout besoin d'aide, j'en ai pas trouvé ». Et en fait, ça correspondrait à ce que je recherche. C'est le Clos du Nid qui...
C'est le Clos du Nid qui gère cet établissement, oui.
Voilà. Bon, ben sur nos différents sites internet, on remettra bien sûr en lien tous les contacts du Clos du Nid.
C'est ça.
Merci à vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. On n'a pas encore le thème, on l'a, Anne.
Alors, j'aimerais le mois prochain qu'on parle du Duo Day, parce que le mois de novembre est le mois où se déroule la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap, et avec une journée spéciale qui est celle du Duo Day. Et donc, j'aimerais bien qu'on en parle le mois prochain.
Et bien, on en parlera alors.
Parfait. Super. Bah, écoute, à très vite alors.
À très vite.
Merci. Au revoir.
Merci.
Hashtag. Un autre regard sur le handicap.